Bonsoir, frères et sœurs de l'Assemblée de Cadre de la Madeleine et tous les YouTubers qui m'écoutent. Vous êtes la bienvenue à cette prédication-là du mercredi soir. J'aimerais vous parler ce soir du portrait de nos héros. J'aimerais pour cela vous lire dans Hébreux au chapitre 12 et les deux premiers versets, s'il vous plaît. Hébreux au chapitre 12, les deux premiers versets. Nous donc, aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et mène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Le premier ministre du Québec, M. Legault, fait mention à chaque jour de personnes valeureuses et il leur donne des attributs comme des anges, des héros et d'autres sortes de connotations comme ça. La parole de Dieu et le monde chrétien a aussi ses héros. Et nous sommes nous-mêmes de cette trempe-là des héros selon Dieu. Maintenant, tout dépend de notre définition de héros. Hollywood nous donne une image des héros qui est bien différente des héros de Dieu. Les Superman, les Iron Man, les Spider-Man, les Batman de ce monde, nos héros fabriqués sont habituellement sans tache, parfaits, capables de faire des choses extraordinaires. Lorsqu'ils défaillent, ce n'est pas de leur faute. Habituellement, c'est le méchant qui les fait tomber. Le mal origine toujours de l'extérieur. Il ne provient jamais de l'intérieur, de leur âme ou de leur cœur. Les héros de ce monde ne peuvent se permettre d'être eux-mêmes fautifs. Juste avant le texte que nous avons lu dans Hébreux 12, il y avait normalement Hébreux 11, l'auteur, inspiré par l'Esprit, nous donne une liste de personnages que la Bible ne qualifie pas de héros nécessairement, mais elle dit d'eux qu'ils ont accompli des gestes héroïques. Mais tous ces hommes et ces femmes ont tous un point en commun avec nous. Et nous le retrouvons tous au verset 1, ce point en commun, au chapitre 12, lorsqu'il dit « Et le péché qui nous enveloppe si facilement ». Tous ces hommes sont au même rang que nous, ce sont des pécheurs. Noé a obéi à Dieu en construisant un immense bateau, gigantesque. Mais après le déluge, il s'est saoulé jusqu'à plus rien voir. Abraham, ami de Dieu, a mis sa femme en danger en mentant par peur. Et il l'a fait deux fois. Jacob, il y a une liste de fourberies à son actif. Hébreux 11 parle aussi de Samson, de Jepté, de David. Tous des héros, mais tous aussi des pécheurs. La parole même nous classe au même rang qu'eux. Et l'ouverture du verset 1 au chapitre 12 dit « Nous donc aussi ». Ces trois petits mots sont pour nous aussi. Ces trois petits mots nous englobent dans le mouvement héroïque de ces hommes imparfaits, mais héroïques quand même. Qu'est-ce qui fait que ces hommes, et nous aussi, nous pouvons être de cette nature. C'est bien notre foi et notre regard. Il nous dit au verset 2, « Ayant les regards sur Jésus. » Voilà ce qui fait de nous de véritables héros. Même ces personnages de l'Ancien Testament avaient sans le savoir les regards sur Jésus. Je ne dois jamais perdre de vue celui qui va faire de mon âme, que mon âme ne soit jamais délaissée. Le départ de notre vie chrétienne est une vie qui a eu les yeux sur Jésus. Récemment, je me suis fait raconter la conversion de M. Charles Spurgeon. M. Spurgeon, vers l'âge de 18-19 ans, dans ces environs-là, il s'est mis à chercher des réponses à la réalité de la vie. Et pour ce faire, il a décidé de visiter les grandes cathédrales de son pays, en Angleterre. Les grandes églises, les grands prédicateurs catholiques de ce temps, et protestants aussi. Et il visitait ces grandes églises et il entendait ces hommes parler. Jamais il n'était touché. Et dimanche après dimanche, il ne perdait pas son temps. Il allait toujours voir dans les cathédrales qu'est-ce qui se faisait. Un dimanche matin, une tempête de neige terrible. Il décide, convaincu qu'il fallait qu'il aille à une cérémonie, à une célébration. Mais pas capable d'aller plus loin que juste le coin de sa rue et juste en face, une église chrétienne évangélique. Il dit, bon, ben je vais y aller, tant qu'à aller nulle part d'autre, je vais aller là. Et il rentre dans cette bâtisse-là, il rentre dans cette église-là. Et à cause de la tempête, le prédicateur ne s'est pas présenté. Il y a 2 ou 3 personnes maximum. Et lui, il entre, M. Spurgeon, et il s'assit. Mais là, les gens étaient pour dire, bon, ben OK, on va faire juste un petit temps de prière, on va s'en retourner chez nous. Mais là, il y a un nouveau qui arrive, il faut faire de quoi? Fait que le plus vieux de la gang, il décide d'aller en avant et de faire une prédication. Ce monsieur n'a jamais été prédicateur de sa vie, il n'est pas capable de parler en public, il est très difficile, mais il décide de le faire quand même. Et il lit quelques passages et il dit... « Vous devez avoir les regards sur Jésus. » Et il lit encore d'autres passages, puis il répète, « Vous devez avoir les regards sur Jésus. Vous devez avoir les regards sur Jésus. » Tout le monde était tanné de l'entendre parler. « Et vous devez avoir le regard sur Jésus. » Et il se tourne vers Charles Spurgeon et il lui dit, « Vous, jeune homme, vous devez avoir les regards sur Jésus. » Et c'est cette phrase-là qui a touché M. Spurgeon. C'est cette phrase-là qui a changé sa vie. C'est cette phrase-là qui a changé sa marche aussi au quotidien. Comment pourrions-nous comprendre avoir les regards sur Jésus? Pour vous, là, est-ce que sa personne et son œuvre occupent votre pensée? Est-ce qu'elle occupe ma pensée? Ça me faisait penser, vous rappelez-vous, il y a quelques années, il y a eu un mouvement au travers du milieu chrétien. Et ce mouvement avait un nom, il s'appelait « Que ferait Jésus à ma place? » Pour certains, moi je me rappelle de ça. Il y avait un livre attaché à ça et il y avait toute une histoire à travers ça. Bien plus que jamais, nous devons revenir à ce principe, que Christ devienne le héros de nos vies, que nous pouvons adorer, un héros que nous pouvons, à travers lequel nous pouvons accomplir des actes héroïques. Un héros présent, constamment présent. Je lisais un livre récemment qui parlait de la communion fraternelle. Et dans les premières lignes, il disait, « Savez-vous ce qu'il y a entre chaque chrétien? » C'est Christ. Chacune des personnes qui a donné sa vie à Christ peu importe son niveau de spiritualité, peu importe son niveau de maturité, qu'il soit mature ou qu'il soit en devenir mature, Christ s'interpose entre chacun de nous. Lorsque je parle à un chrétien, je parle à Christ et à celui qui est avec lui. Pourquoi je vous connais? Pourquoi j'ai une relation avec chacun de vous? C'est par Christ. Aucun de vous n'aurait voulu me connaître avant que je connaisse Christ. Ce ne serait pas correct de vous en parler, de vous dire comment est-ce que j'étais avant. Pourquoi? Parce que la seule chose belle qu'il y a dans un chrétien, c'est Christ. Chaque changement qu'il y a dans notre vie est associé à une personne. Mes parents ont fait que j'ai changé et j'ai encore aujourd'hui les reliques de mon éducation. Mes beaux-parents ont fait que j'ai changé et mon beau-père était un homme d'une grande sagesse. J'ai beaucoup appris de ses conseils. Mon épouse a fait que j'ai changé et elle retenait beaucoup de son père. Mes enfants, chacune de mes filles, a fait que j'ai changé. Même certains enseignants que j'ai eus dans ma vie ont fait que j'ai changé. J'aime le français et je sais que ça vient d'un professeur du secondaire 4 ou secondaire 5 qui m'a enseigné le français d'une manière fabuleuse que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le français par la suite. J'aime le français et ça vient d'un prof. Mais tous ces gens-là, tous autant qu'ils sont, c'est-à-dire imparfaits et limités dans ce qu'ils sont, peuvent m'enseigner. Mais ils ont changé seulement quelques aspects de ma personnalité. Ils ont rajouté des choses, ils ont enlevé des choses, mais jamais un travail en profondeur. Mais la personne de Christ est complètement différente, car il est parfait et illimité. Et il est assis à la droite de Dieu. C'est-à-dire que les changements qui vont s'opérer dans toute ma vie, sous son influence, seront à sa ressemblance et me garderont dans sa présence rassurante, dans la mesure que je garde les yeux sur lui, dans la mesure que mes regards sont sur Jésus. On n'est pas des héros, mais des actes héroïques sont à notre portée. Parce que le véritable héros dans toute l'histoire, c'est Christ en nous. J'aimerais vous laisser une histoire. Une histoire qui montre l'importance de garder nos regards sur Jésus. Cette histoire est dans la Bible. On la connaît bien. On connaît l'histoire de Pierre qui a marché sur les eaux avec le Seigneur Jésus. Et cette histoire se retrouve dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 14, à partir du verset 25 jusqu'au verset 23. On connaît bien cette histoire, mais ça vaut la peine de la lire. Donc, Matthieu 14, 25. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme. » Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessant. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu !» Pierre a cessé de regarder à Christ. Il a été troublé par tout ce qui se passait autour. Et il s'est mis à sombrer. Le lien est facile à faire. Le monde dans lequel nous vivons peut nous rendre confus. On vit dans un monde inquiétant. Et il est impossible d'avoir la vérité à travers toutes les fausses nouvelles. Si je regarde ailleurs qu'à Christ, je ne sais plus ce qui est faux et ce qui est vrai. Confusion. Confusion totale. L'autre jour, j'ai envoyé par courriel une nouvelle pensant qu'elle était vraie. Et je me suis fait dire plus tard, « C'est faux ce que tu as envoyé. » Ah, j'étais mal d'envoyer une nouvelle fausse. Je n'ai rien envoyé de faux. Je ne veux plus rien envoyer de faux, d'ailleurs. Je regarde le monde aller et je ne sais pas où est-ce qu'il va se rendre. Je n'ai aucune idée où est-ce qu'il va se rendre. Mais lorsque mes regards sont sur Christ, je sais avec qui je suis. Et je sais où est-ce que je vais aller. Et je sais surtout que je suis avec celui qui s'appelle Vérité. Vous savez, la vie, c'est comme la conduite de moto. La moto va toujours aller à l'endroit où tu regardes. Et ça, c'est physique. Si vous voulez essayer une moto, vous allez vérifier ça très facilement. Je suis un amateur de moto, puis je peux vous confirmer cela. Sur la route, si je vois un nid de poule puis que je fixe mes yeux sur le nid de poule, c'est sûr que je rentre dedans. La moto va aller où est-ce que je regarde. Si je regarde au bon endroit, si je regarde juste à côté du nid de poule, je vais passer au bon endroit. Les yeux de notre cœur suivent le même principe. Si je regarde à Christ, je serai rassuré. Si je suis concentré sur le monde et ses vagues, et ses montées et ses descentes, et ses scénarios, les pires, les moins pires, je risque de faire comme Pierre, sombrer. En ces temps de fake news, d'incertitudes, de scénarios catastrophes, il est très important, je dis très important, primordial, et on pourrait en rajouter encore, d'en savoir plus sur notre Sauveur en ayant les regards sur lui. Je me permets de vous donner ce conseil, et autant pour moi que pour vous, je trouve que ce conseil ne devrait pas être pris à la légère dans la suite des jours. Prions. Oui, Seigneur Dieu, montre-nous comment avoir les regards sur toi. Montre-nous, Seigneur, les regards que nous devons avoir lorsque nous allons bien. Montre-nous où nous devons mettre nos regards lorsque nous allons mal, lorsque nous sommes inquiets, lorsque nous sommes anxieux, lorsque nous pensons que nous allons sombrer. Prends-nous par la main, que l'on puisse te regarder. Manifeste ta présence dans nos vies et que jamais, Seigneur, nous écartions nos regards de toi. Tu es celui qui a sauvé ma vie il y a beaucoup d'années, mais tu es celui qui sauve jour après jour jusqu'à ton retour. Permets que nous ayons, Seigneur, ce désir de vouloir être avec toi, d'avoir ses yeux sur toi. Montre-nous comment faire, parce que nous sommes faibles, notre chair est faible. Mais Seigneur, toi, tu as la toute-puissance et tu es capable de nous donner d'avoir les yeux sur toi. Merci, Seigneur. Merci de répondre à nos prières et de nous donner, Seigneur, ce que nous avons besoin en 2020 et pour les jours qui vont suivre, par le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.